pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Et aujourd'hui, nous allons vous diffuser plusieurs reportages qui ont été réalisés autour des luttes qui s'organisent dans le secteur de l'énergie. Alors, tout d'abord, nous vous diffuserons un reportage qui a été réalisé le 6 octobre dernier suite à l'arrestation et à la perquisition de plusieurs salariés d'Enedis par les renseignements généraux dans le cadre de leur mobilisation. Ensuite, vous pourrez entendre d'un interview que nous avons réalisé mardi dernier, le 4 octobre donc, avec Paul, délégué syndical CGT de la raffinerie de Grand-Puy, qui reviendra donc sur le mouvement de grève qui s'est organisé cette dernière semaine dans les raffineries. Puis, après la pause musicale, nous reviendrons sur le plateau pour vous diffuser à ce moment un entretien qui a été réalisé autour de l'affaire de Moussa Gakou, gazier depuis 15 ans, qui participe à la grève nationale des agents de l'électricité et du gaz pour l'augmentation des salaires et qui, à l'appel de la FNME-CGT, donc la Fédération Nationale des Mines et de l'Énergie, avait participé du 15 au 22 juin à l'action syndicale en coupant le gaz pour pousser la direction à négocier. Évidemment, l'employeur a porté plainte. La filiale de l'entreprise publique Engie l'accuse de dégradation volontaire d'une installation de gaz, perquisitionnée chez lui à Argenteuil à 6h du matin. Il a été condamné par les tribunaux et actuellement, GRDF le fait passer le 15 novembre en entretien pour licenciement. Vous entendrez donc l'interview de Luc André Ponce, qui l'a accompagné dans sa défense, nous faire un point sur cette affaire et les suites de la mobilisation en vue du 15 novembre prochain.
Devant le siège de RTE à la Défense, nous sommes au lendemain d'une attaque inédite contre le droit de grève, puisque plusieurs salariés ex-DGDF, mais actuellement Enedis, ont été convoqués par les renseignements généraux. Et l'un des délégués de la CGT Énergie Paris va nous expliquer pourquoi.
Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une lutte, comme dans beaucoup de secteurs professionnels, pour l'augmentation générale des salaires au vu d'une inflation historique. Beaucoup de des agents du service public aujourd'hui décrochent financièrement parce que les salaires sont bas et que le coût de la vie devient insupportable pour notre classe sociale. Et donc dans ce cadre-là, il y a des mouvements qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Et dans le cadre de ce mouvement, bah notamment les copains du réseau de transport électrique RTE, comme ils le font depuis plus de 30 ans, se sont réappropriés l'outil de travail. Et en l'occurrence, les quatre camarades là qui ont été déférés à la DGSI à Levallois et qui ont été levés hier chez eux devant femmes et enfants avec embarquement de tout le matériel informatique des foyers et qui sont aujourd'hui interrogés dans les cellules antiterroristes, de région parisienne, ont simplement fait basculer un poste en local. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils ont repris la maîtrise d'un poste électrique sans couper. tout en maintenant l'alimentation d'électricité. Et donc par rapport à ce fait-là, qui est quelque chose qu'on fait très fréquemment dans nos entreprises, ils ont été attaqués et interpellés pour cyberterrorisme, donc une échelle complètement incroyable pour des grévistes. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on explique qu'on a bien affaire à une volonté politique de faire taire le mouvement dans les IEG, dans les industries électriques et gazières. Et plus précisément, vous savez, le gouvernement a annoncé des délestages massifs sur le réseau parce qu'ils ont atomisé le service public de l'énergie qui était, je vous rappelle, il y a 20 ans, on était le premier producteur et le premier exportateur d'électricité en Europe. Aujourd'hui, on subit des pénuries parce qu'ils ont cassé l'outil industriel dans l'entreprise. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je pense qu'ils ont extrêmement peur de ce qui peut se passer cet hiver sur le réseau. Et de ce fait-là, quand les ouvriers ou les grévistes montrent qu'ils peuvent reprendre au moins la maîtrise du réseau, y compris sans coupure, pour ces gens-là, c'est complètement insupportable. Et je pense que la disproportion de moyens et la volonté de faire extrêmement peur politiquement répond à ce besoin du gouvernement, alors que c'est bien eux qui s'apprêtent à plonger peut-être des millions de Français cet hiver sans électricité et sans gaz, et eux ne finiront sûrement pas dans les cellules de la police française.
Toi, tu fais clairement un lien entre cette attaque, ces perquisitions, ces gardes à vue et la situation énergétique actuelle.
On pense que de toute façon, effectivement, on pense qu'il y a un lien de toute façon évident, c'est le lien effectivement de ce que je viens d'expliquer. Et puis l'autre lien, c'est que partout en France et en Europe, voire dans le monde aujourd'hui, il y a des mouvements assez importants pour l'augmentation des salaires contre la vie chère et notamment la flambée des factures d'énergie aujourd'hui. Et donc effectivement, ils ont une double raison de taper très fort, parce que comme on est un secteur stratégique et que d'autres secteurs sont dans la danse, comme les copains de la chimie au niveau des raffineries Total, si vous avez des secteurs aussi importants pour un pays que les raffineries, l'énergie, les transports ou d'autres secteurs qui se mettent dans la grève de façon intense en reprenant l'outil de travail, ça peut être extrêmement compliqué pour ce gouvernement à gérer dans les semaines et les mois qui viennent. Et je pense qu'ils ont besoin de taper extrêmement fort pour essayer de faire peur à notre camp social et essayer d'étouffer dans l'œuf toute volonté de lutte et d'émancipation par l'augmentation générale des salaires en France.
Tu peux nous en dire un peu plus sur la situation énergétique actuelle ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a deux problèmes principaux aujourd'hui dans l'énergie. C'est qu'on annonce aux Français qu'effectivement, on va devoir se passer sûrement du gaz et de l'électricité en donnant des fausses raisons. On invoque la guerre en Ukraine, on invoque la sécheresse l'autre aspect, c'est effectivement la flambée des prix. Moi, je vais être très clair, au nom de la CGT et dans l'énergie, les deux phénomènes que je viens d'expliquer sont des phénomènes annexes qui effectivement ont un lien indirect avec ce qui est en train de se passer, mais qui ne sont absolument pas la cause structurelle de ce qui se passe. Très clairement, le fait qu'aujourd'hui on risque d'être en pénurie d'électricité, c'est purement lié aux politiques libérales menées par l'Europe et relayées par le gouvernement français, notamment dans le nucléaire. Je vais être très simple, en 2018, Macron annonçait la fermeture de 14 réacteurs nucléaires et donc de la centrale de Fessenheim. Il faut savoir qu'en France, à l'heure où je parle, 70% de l'électricité est produite par le nucléaire. Et c'est une électricité qui est effectivement très peu chère. Et donc quand vous commencez à fermer cet outil industriel, forcément le nucléaire, ça demande beaucoup d'entretien, de la surveillance. Et donc aujourd'hui, bah, comme effectivement Macron a annoncé ça il y a plus de 4 ans maintenant, et bah, le PDG de l'époque, Jean-Bernard Lévy, qui était le doigt sur la couture pour suivre les instructions du gouvernement, a réduit les effectifs dans le nucléaire, n'a pas réembauché, n'a pas fait les suivis de formation ou de compétences. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus de la moitié des réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt parce que par manque d'entretien et par manque de personnel. Et donc forcément, on ne produit plus du tout d'électricité, on est obligé d'en importer, mais c'est absolument pas lié effectivement à la guerre en Ukraine ou la sécheresse. C'est un choix purement politique dans le cadre d'économie. Et le deuxième aspect, c'est la flambée des prix pour les usagers. Je vais être très très clair. Quand on est un service public, le coût de l'énergie, il y avait deux tarifs uniques, un tarif réglementé en gaz et un tarif réglementé en électricité. Ces tarifs étaient calculés exclusivement sur le coût de production de l'électricité, et on avait un des prix les moins chers d'Europe, et on souffrait pas de pénurie. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le mégawattheure se vend à plus de 1000 euros sur le marché concurrentiel de l'énergie créé toute pièce par l'Union européenne, alors que il y a un an, il se vendait à 84 euros. Il faut savoir que le coût de production d'un mégawattheure en France, environ, c'est de 50 euros. Donc on le vend plus de 1000 euros, mais le coût de production revient à 50 euros. La vraie question qu'il faut se poser, c'est où passent les 950 euros de différence entre le coût de production et la vente d'électricité. Il va dans la poche des spéculateurs, des grands propriétaires capitalistes, et qui rançonnent les usagers devenus clients et qui leur font flamber leurs factures. Et aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que très bientôt, beaucoup d'usagers, beaucoup de collectivités locales ou territoriales ne vont plus pouvoir payer leurs factures d'énergie parce qu'on est sur un marché concurrentiel qui a transformé un bien fondamental qui est l'énergie en un bien marchand, où on spécule. Aujourd'hui, si on revient à un tarif réglementé avec un vrai service public nationalisé et qu'on arrête la concurrence dans l'énergie, on revient à un prix du coût de production. inflation, on descend de plus de 20 fois le prix de l'électricité et du gaz pour tous les Français.
D'accord. Est-ce que... Il y a d'autres actions qui sont prévues par rapport à ces gardes à vue, notamment devant la DGSI.
Alors, moi, effectivement, c'est des copains du RTE, du réseau de transport électrique. Donc, nous, ils sont au même statut que nous. Mais effectivement, on va voir avec les copains du RTE ce qu'ils décident dans les prochains jours ou les prochaines semaines. En tout état de cause, moi, ce que je peux juste dire aujourd'hui, au lendemain de leur interpellation, c'est que sur tous les sites de travail, en tout cas en Ile-de-France, et je pense que ça va être partout en France, cette affaire-là choque énormément les collègues. Et je pense qu'il y a une colère qui était déjà extrêmement présente par rapport aux problèmes sociaux, salariaux et aux problèmes de services publics, qui va être à mon avis exacerbé et démultiplié par cette affaire-là. Donc j'espère bien que dans les jours et les semaines qui viennent, des mouvements massifs vont avoir lieu et pour effectivement un vrai service public pour les usagers et pour les agents avec une augmentation des salaires et pour l'arrêt total de la criminalisation de l'action syndicale et de la poursuite des militants qui œuvrent pour l'intérêt général.
Ce qui me fait arriver sur le cas de Moussa, gazier qui a été condamné à 90 jours de travaux d'intérêt généraux pour action syndicale là aussi, qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Bah Moussa, aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis, il a été condamné. Il est en procédure disciplinaire.
Il doit passer le 15 novembre.
Le 15 novembre, effectivement, en commission secondaire disciplinaire. Moussa, c'est pareil. Son cas suscite énormément de solidarité, notamment chez les gaziers et les électriciens d'Île-de-France. Encore une fois, Moussa, on lui reproche d'avoir touché à l'outil de travail, en l'occurrence le réseau gaz. Sauf que les mêmes qui lui reprochent ont déjà annoncé que peut-être des ruptures massives du gaz dès cet hiver, en privant peut-être des milliers, voire des millions de Français de cette énergie indispensable. Donc les mêmes qui ont mis en œuvre la pénurie de gaz et d'électricité en France et qui va toucher des millions de personnes, reprochent à des agents de s'emparer de l'outil de travail dans le cadre de mouvements sociaux. Donc c'est complètement incroyable. Moi, ce que je peux juste dire à l'heure qu'il est, c'est que la mobilisation pour Moussa, elle est extrêmement importante. La volonté de solidarité avec Moussa, elle est extrêmement importante. Et que le 15 novembre, avant et après, on va faire en sorte de se mobiliser pour que Moussa reste un gazier du service public, parce qu'il est digne de rester avec nous, contrairement aux directions et aux gouvernements qui ont saboté notre outil de travail, un outil indispensable à la nation et à son peuple. Et ce qui risque Moussa, tout simplement, c'est le licenciement. Le licenciement, ce qu'on appelle chez nous la mise à la retraite d'office, c'est-à-dire que c'est le privé de son emploi, privé de sa famille de ce revenu-là. Et donc, c'est effectivement, on appelle ça nous un assassinat social. C'est-à-dire que si vous êtes viré de chez nous pour fait syndical, je vous souhaite bon courage pour retrouver du boulot à l'extérieur. Donc, il risque effectivement la sanction ultime, c'est-à-dire qu'il a déjà été condamné par la justice et aujourd'hui, il risque le licenciement pur et simple de nos industries.
Ok, merci.
Je t'en prie.
Mais qui a disparu en scène ? La France, celle que je te livre, pour qui je n'ai que des insultes sur le bout de mes lèvres. Cette France, bleu, blanc, rouge, le flic, le port, le bourge.
Maintenant, l'interview réalisée avec Paul, délégué CGT à la raffinerie de Grandpuy.
Bonjour à tous. Moi, c'est Paul Feltman. Voilà, je suis militant CGT, secrétaire général de la CGT, la raffinerie de Grandpuy.
Cette semaine, il y a eu une grève dans plusieurs raffineries françaises durant 72 heures. Quel en a été le déclencheur ?
Oui, donc en fait, bon, voilà, l'appel des 72 heures de la semaine dernière, en fait, faisait déjà écho, en fait, si vous voulez, voilà, avec l'inflation galopante qu'on a eue tout au long de l'année, au mois de mai de l'année dernière, voilà, déjà la CGT se posait la question de rouvrir les négociations sur les NAO 2022, parce que voilà, le compte n'y est pas. On avait une inflation à l'époque de plus de 6% déjà au mois de juin, par mai-juin, et nous, on avait des augmentations de salaire, en gros, qui étaient équivalentes à 3%. Donc on avait déjà, en fait, une perte de pouvoir d'achat depuis le mois de mai de cette année. Donc on avait déjà, on avait fait appel à la direction hein, pour plusieurs fois. On les avait sollicités par mail, par courrier, etc., pour réengager des négociations. Ils nous ont à chaque fois, ils nous ont soit pas répondu, soit ils ont refusé de réouvrir les négociations. Donc on a eu deux premières journées de mobilisation, une qui était historique, qui était le 24 juin, où on avait réussi même à mettre l'ensemble de toutes les filiales totales en France en grève sur cette journée. Donc c'était une franche réussite. Notamment, on en a entendu parler parce qu'on a réussi aussi à mettre les stations-service totales au niveau des autoroutes en grève. Ça, c'était la première journée. On a eu une deuxième journée le 28 juillet, donc en plein milieu des vacances. Ça, c'était aussi assez quelque chose qui est assez historique parce que on a du mal souvent à mobiliser pendant les vacances. Et ça a été une journée qui a bien fonctionné malgré le fait que les salariés soient en congé. Et donc on a décidé, voilà, au mois de septembre, la coordination, donc l'ensemble, l'ensemble de la CGT, de l'ensemble des raffineries de Total, on a décidé de mener 72 heures de grève courant septembre, donc du 27 au 29.
D'accord.
Voilà. Donc c'est une grève qui a extrêmement bien fonctionné, puisqu'en fait l'ensemble de tous les sites sont partis en grève, avec des taux de grévistes très très importants. Hein. On a la plateforme de Normandie, la plateforme de la Mède dans le sud, ou la plateforme encore de Flandre dans le nord. Voilà, on a eu des taux de grévistes de 80-100% sur ces trois journées. Concernant Feuzin à Lyon, c'était pareil, on a eu des très gros taux de grévistes. Voilà. Et aujourd'hui, après le 29, en fait, il y a des raffineries, voilà, qui ont continué le mouvement, qui ont continué à être en reconductible. Il y a même Normandie, voilà, qui a poussé les consignes d'arrêt de la raffinerie. Donc aujourd'hui, la raffinerie de Normandie est à l'arrêt.
Quelle est la situation pour les autres raffineries? Qui continue, qui a arrêté?
Donc aujourd'hui, la raffinerie de Normandie est à l'arrêt et continue le mouvement. On a la bioraffinerie de la Mède, pareil, qui continue à être en reconductible. On a le dépôt de Flandre, voilà, donc dans le nord, qui elle aussi continue et ne sort aucun produit. Et après, on a Feuzin qui reste dans le mouvement, mais voilà, qui avec des taux de grévistes qui sont un peu moins élevés. Et après, voilà, on a Donge et on a Grande Fuye qui ont répondu à l'appel des 72 heures, mais qui voilà, aujourd'hui sont plus fortement dans le mouvement, en tout cas pas reconductibles. Et concernant Grand Fuye, voilà, nous on s'est engagé à faire au moins une journée de mobilisation par semaine, voilà, pour continuer à être dans le mouvement et notamment bah, montrer aux autres copains des autres raffineries bah, voilà, qu'ils ne sont pas seuls, qu'on continue malgré le fait que nous on n'arrive pas forcément à faire du reconductible de par la situation de notre site, mais en tout cas voilà, on est solidaires avec eux et on montre que voilà, on est tous ensemble dans ce mouvement avec des revendications. Alors les revendications, j'en ai pas parlé, mais la revendication que porte la CGT aujourd'hui, c'est une augmentation de salaire de 10% pour l'année 2022. Donc c'est-à-dire que c'est un rattrapage, nous ce qu'on souhaite, c'est un rattrapage des NAO 2022. Et nous ce qu'on veut pas, c'est que. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que l'entreprise, voilà, la direction veut nous mettre des NAO 2023. Nous ce qu'on leur a dit, c'est que non, il y a un sujet en 2022, il y a une inflation qui est tellement élevée qu'aujourd'hui les salariés ont besoin voilà, hein, d'avoir un rattrapage. Donc on est en 10%, on demande aussi le dégel des embauches, puisque depuis le Covid, grosso modo, chez Total, il y a un gel des embauches, donc du coup on a besoin de 109, on a besoin, il manque des effectifs dans tous les sites. Et la troisième chose, bah, c'est qu'on voit que malheureusement notre outil, à l'image de Grand Puy, hein, qui a fermé il y a deux ans, l'outil vieillit, et on a besoin de plans d'investissement massifs pour pouvoir maintenir nos installations en bonne santé et pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions et en sécurité. Voilà. Donc ça c'est les trois revendications qu'on porte, c'est celle-ci. Voilà.
Alors pour rappel, les NAO, ce sont les négociations annuelles obligatoires pour les salaires. Est-ce que tu peux revenir sur la situation à Grand Puy?
Comme vous le savez sans doute, enfin, en tout cas je vais le répéter, mais bon, voilà, en 2021, on a subi une fermeture de site, une réorganisation avec la fermeture de la raffinerie et la transformation de l'usine qui est d'ailleurs toujours en cours. On a subi 200 suppressions d'emplois directs et 500 destructions d'emplois indirects. Donc on a 700 emplois qui ont été supprimés sur la plateforme de Grand Puy. Donc on a énormément de salariés là, sur les deux dernières années, si vous voulez, qui sont en mutation, qui sont en recherche d'un nouveau travail, d'un nouveau poste, etc. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on n'a pas d'outils, c'est-à-dire que notre raffinerie est à l'arrêt, elle est en train actuellement d'être démolie. Donc en fait aujourd'hui voilà, on est plus ou moins en train de on est présent sur site mais on n'a pas forcément une activité importante. Donc ce qui fait que voilà, tout ça c'est des éléments qui aujourd'hui ne nous permettent pas forcément de pouvoir faire de la reconductible, etc. Parce que voilà, les salariés en fait Non, on n'a pas d'outil de travail à arrêter, si vous voulez. Donc c'est compliqué à mobiliser sur la durée et en reconductible. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on on transforme, notre outil se transforme, donc notre activité syndicale doit se transformer avec lui. Et donc aujourd'hui, voilà, on est plus dans des actions coup de poing, fermeture de la base, un petit peu comme à la Gilets jaunes, hein, c'est-à-dire que bah, voilà, on se lève très tôt le matin et on vient bloquer physiquement les camions qui veulent rentrer pour se faire charger en produits. Voilà, en fait, aujourd'hui, c'est ça notre mode d'action aujourd'hui à Grand-Puy, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler de la seconde raffinerie qui a arrêté le mouvement ?
Concernant Donge ?
Oui.
Alors Donge, en fait, si vous voulez, il y a quelques mois, ils ont fait une grève qui était très très dure. Ils ont fait plus de 40 jours de grève. Ils ont fait au moins 3 semaines de grève. Alors ça n'a peut-être pas duré 40 jours, mais ça dure au moins 3 semaines de grève. Pour la revendication qui était sur l'emploi, donc ils voulaient environ 40 embauches. Et donc voilà, comme c'est un combat qui a duré longtemps et qui était il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui voilà, c'est une raffinerie qui a du mal à remobiliser, parce qu'on le sait, hein, les salariés, quand ils font 3 semaines, 4 semaines de grève, il faut un peu de temps pour pouvoir repartir, pour pouvoir remettre économiquement le foyer à l'équilibre, etc. Ça met un peu de temps. Donc c'est une des raisons pour lesquelles Donge aujourd'hui a du mal à mobiliser.
D'accord. Cette restructuration à Grand-Puy, c'était, il y avait une excuse écologique lancée par Total. Qu'en est-il de cette restructuration ?
Alors, très bonne question. Total a utilisé le prétexte du greenwashing, hein, c'est-à-dire qu'en disant on va transformer le site, on va transformer en un site zéro carbone, zéro pétrole, etc. Bon, en fait, voilà, ça pose quand même des limites, on le voit. Aujourd'hui, le projet qui est mis sur la table, donc il y a 3 unités qui vont voir le jour. La première, c'est la fabrication d'une usine qui va nous permettre de fabriquer du bio-jet, donc du biocarburant pour les avions. Donc à base de graisse animale, d'huile végétale, etc., d'huile usagée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on va avoir une unité de plastique agroplastique. À base de sucre et d'amidon, etc. Et la troisième unité, c'est grossièrement, je vais dire vulgairement, on prend votre poubelle jaune, on la fait fondre, on récupère une huile qui va repermettre à la pétrochimie de refabriquer du plastique. Voilà. Donc ça, c'est les trois choses, les trois unités. Et elles posent des questions, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit deux ans après les annonces, et on le voit notamment avec ce qui se passe en Ukraine et l'actualité très récente, que finalement ça va poser des problèmes, ce genre d'installation et d'usine va poser des problèmes sur le long terme, mais de manière sociétale. C'est-à-dire que si on prend le bio-kérosène, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que c'est une hérésie d'utiliser notamment des huiles végétales pour fabriquer du carburant, alors qu'aujourd'hui, on le voit, il y a eu des pénuries. Notamment je pense à l'huile de tournesol ou de colza, on a eu des pénuries pendant des mois, on n'arrivait pas à en acheter dans les supermarchés, etc. Alors imaginez si notamment Total arrive sur le marché pour prendre ces huiles-là et en faire du carburant. Voilà, donc ça pose ce problème-là, ça pose le problème d'utiliser des terres arables pour faire du carburant, ça pose en extrapolant, ça pose la question aussi de la déforestation, puisque ça va être si on utilise des surfaces arables pour faire du carburant, on va pas avoir assez de surface pour faire à manger non plus. Donc il va falloir plus de terres arables, donc il va falloir déforester, enfin, couper les arbres, etc. Donc ça pose des problèmes. Et après, il y a aussi le côté dont on a regardé. Finalement, on se rend compte que le bilan carbone et le bilan est négatif sur ces énergies-là, puisqu'en réalité, pour fabriquer une tonne de biocarburant, il faut cramer à peu près 1,5 tonne d'énergie fossile. Donc en fait, on voit qu'on a un bilan négatif. Donc sur le long terme, c'est pas viable, quoi. Voilà. Et pas écolo.
Quel est le rôle de Total dans la situation de la de la hausse des prix des matières premières, notamment du gaz.
Bah, nous, ce qu'on dit, c'est des profiteurs de crise. C'est-à-dire qu'ils utilisent le prétexte, comme tous les pétroliers d'ailleurs, hein, il n'y a pas de Total dans la même veine, mais ils utilisent le prétexte voilà, du conflit ukrainien-russe et aussi de l'après-Covid, hein, voilà, pour gonfler les prix. Et d'ailleurs, on voit, et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisque ce que montre Total avec les 20 centimes là, de réduction de Total, c'est assez intéressant puisqu'en fait, ça nous montre que malgré tout, il faut pas se leurrer, même avec ces 20 centimes de réduction, Total continue à faire du bénéfice. Et continue à faire des bénéfices parce que le baril de pétrole reste très élevé, on est aux alentours de 80-90 dollars le baril. Donc déjà, Total se fait de la marge en vendant le pétrole brut. On a des marges de raffinage actuellement qu'on n'avait jamais vues, elles sont historiques. On est à peu près à 120, la marge elle est à 120 dollars par baril. Non, 120 dollars la tonne, pardon, de brut traité. Donc bon, c'est des éléments qu'on n'a jamais vus. Donc c'est-à-dire que quand on raffine du pétrole, Total se fait de la marge aussi. Et donc en fait, arrivant au bout de course dans les stations, elle peut se permettre de faire une réduction de 20 centimes. Ça montre quoi? Ça montre que bah, tout simplement, notre société, on sera en capacité de bloquer les prix des carburants. Pour que l'ensemble des personnes puissent pouvoir aller bah voilà aller travailler etc dignement sans avoir un frigo vide à la fin du mois entre se chauffer ou aller bosser etc on se rend compte que finalement si les outils étaient dans nos mains dans les travailleurs on déciderait voilà de pouvoir bloquer les prix de descendre les prix et de conserver des marges etc. Donc c'est ça aussi qui est important de dire. C'est avec, là, on voit qu'avec les 20 centimes que bénéficie Total, en réalité, on se fait en capacité de pouvoir bloquer les prix. Et qu'en fait, voilà, l'inflation qu'on subit notamment sur l'énergie, c'est juste parce que les entreprises, elles se gavent tout simplement.
Donc ça veut dire que même en bloquant les prix, Total se ferait des marges.
Ah oui, tout à fait. Parce que si vous voulez, là, dans le pétrole, ce qui est assez important aussi de dire, c'est que il possède la totalité de la chaîne de production. C'est-à-dire que il puise le pétrole brut, donc bah voilà, dans les nappes. Donc ça, ils vendent le pétrole brut, d'accord, ils le vendent, donc ils font une marge sur cette vente-là. Ils se font une marge dans les raffineries. Puisque bah, comme ils transforment les produits, ils se font une marge qui est très élevée. Et après, à la distribution, quand elle arrive dans les stations, pareil, ils se refont une marge sur la distribution. Donc en fait, ils se font trois fois du fric, si vous voulez. Donc le fait de pouvoir baisser, même si on baisse, on continue, Total continue à faire de l'argent. Là, on a eu les résultats au premier semestre. On est à 18,8 milliards de bénéfices au premier semestre chez Total. En fin d'année, on estime qu'on va dépasser les 30 milliards de bénéfices. Enfin voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est stratosphérique. On n'a jamais vu ça. Donc on a dans le même temps, on a des entreprises qui se gavent et les travailleurs qui subissent une inflation à 7% et qui n'ont pas d'augmentation de salaire.
Un petit retour sur la grève de 72 heures. Il paraît que certains dépôts de carburant sont en pénurie. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, on sait que la situation est très très tendue. La première raison, en fait, c'est que bah, on a quelque part, bah, forcément, on délocalise les capacités de raffinage. D'une part, hein, donc on sait bien puisqu'on en a fait les frais. Donc on ferme les raffineries en France, on les délocalise. Déjà forcément, du coup, on est contraint et on est dépendant d'une certaine importation de produits finis, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que forcément, et là je reviens sur les 20 centimes de Total, le fait que Total mette en place ces 20 centimes, il y a un appel d'air, c'est-à-dire que forcément tout le monde s'est rué dans les stations, etc. Ça c'est la deuxième chose. Donc ça a commencé à créer des pénuries dans les stations. On voit aussi un troisième élément, c'est que notamment à cause de l'inflation et du niveau des salaires, Il manque des chauffeurs routiers pour livrer en fait ces produits de carburant. Ça, c'est aussi un élément qui vient se rajouter à tout ça. Nous, on le voit, hein, il manque des chauffeurs routiers pour pouvoir, envoyer le produit dans les stations-service, etc. Donc tout ça fait que on a des pénuries, on a des niveaux de stock qui sont relativement bas. Et notamment voilà, sur certains produits, par exemple, on sait que sur les avions, notamment sur le jet, sur le kérosène, on sait que voilà, il y a effectivement des dépôts, etc., qui sont dans certains aéroports, on va puiser dans ce qu'on appelle les stocks sagesse dits stratégiques. Parce que voilà, le niveau est très bas, les niveaux de stocks sont très bas.
Je me rappelle que lors de la grève, la grosse grève de Grandpuy, tu nous parlais d'un pipeline qui traversait toute l'Île-de-France. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état il est actuellement?
Alors aujourd'hui, il est à l'arrêt. Bon, il faut savoir. Aujourd'hui, le PLICH, donc c'est le pipeline qui alimentait la raffinerie de Grandpuy en pétrole brut du Havre, du Havre. Ce pipeline aujourd'hui, il est tellement endommagé, bon, il est mis sous azote et il n'est plus utilisé du tout. Voilà. Mais il faut savoir que l'ensemble des raffineries, en fait, il y a un maillage de pipeline en France où en gros l'ensemble des raffineries et des dépôts sont reliés entre eux par tuyau. Voilà. Et ça aujourd'hui, ben voilà, ça continue de fonctionner. Hein. On a nous ce qu'on appelle DMM, donc c'est un pipeline qui fait Donge Melun-Metz, qui traverse la France de part en part. Donc ça c'est un premier tuyau. On a tout le réseau Trapil. Trapil, c'est une entreprise voilà, qui gère des pipelines en France. Ils ont un maillage voilà, qui couvre quasiment l'ensemble du territoire, tous les dépôts, etc.
Cette entreprise, elle est publique ou privée?
Alors voilà, elle est les deux. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une partie, qui est publique, une partie qui est privée, et elle est même militarisée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des civils, il y a des gens comme nous qui sont des salariés civils, mais il y a aussi des militaires, des gens qui sont souvent en cas de grève, etc. Ils font appel aux militaires qui eux n'ont pas le droit de grève et qui en fait assurent justement l'alimentation par tuyau de certains dépôts, de certaines même raffineries, etc.
Ouais, donc un PPP militarisé quoi.
C'est ça.
D'accord. Est-ce que vous avez prévu en ce qui concerne les militants CGT de Grandpuy, de faire des rencontres avec tous les militants dans le secteur de du raffinement de pétrole?
Alors nous, on a un collectif, on est une coordination, c'est-à-dire que l'ensemble des syndicats CGT, de l'ensemble des raffineries, on a un collectif, si vous voulez, donc on se voit régulièrement, là notamment en ce moment, on se voit à peu près 2 à 3 fois par semaine en vision, on a des réunions, etc. Et là, on essaye aussi d'élargir, j'en ai pas parlé, mais il y a ExxonMobil aussi qui est dans un mouvement qui est très similaire, puisqu'en fait, c'est les mêmes modalités, c'est-à-dire qu'eux, ils veulent aussi des augmentations de salaire, etc. Mais ce n'est pas la même entreprise, c'est le même ExxonMobil, donc ils ont 2 raffineries en France. Les deux sont à l'arrêt pour cause de grève. Ça fait 3 semaines qu'ils sont en grève aussi. Ils sont partis un petit peu plus tôt que nous, qui a un chemin total, mais ils sont en grève. Et donc justement, voilà, on essaie aussi de créer une synergie entre nous et même de porter des revendications qui sont assez hégémoniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait des revendications plutôt sectorielles, plutôt corporatistes. Et justement, nous, on essaye voilà, comme on est tous ensemble, déjà d'élargir un mouvement, c'est-à-dire qu'on appelle aussi des gens de la pétrochimie, des entreprises d'Arkema, etc., de pouvoir nous rejoindre, mais aussi voilà, poser aussi des revendications qui sont plus hégémoniques, notamment par exemple une revendication qui parle à tous, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Parce qu'il faut savoir par exemple que nos amis belges, ils ont une raffinerie totale Anvers. Et eux, nos camarades d'Anvers, ont eu 10% d'augmentation cette année, parce qu'en Belgique, justement, il y a une loi permet en fait d'augmenter les salaires sur l'inflation. Et donc voilà. Donc nous, on essaie voilà, justement de porter des revendications plus hégémoniques en construisant plus largement et en appelant voilà, d'autres secteurs à venir se mobiliser avec nous.
Ouais, donc en Belgique, ils ont conservé l'indexation des salaires sur l'inflation.
C'est ça.
Comment ça se passe l'Interpro dans le 77, qui avait été très présente lors de votre grève à Grandpuy?
Ouais, bah, on a toujours des contacts, mais aujourd'hui, là, on est sur une grève un peu plus... on a toujours gardé des liens, des contacts. Là, par exemple, voilà, il y a aussi la centrale de Nogent, avec qui on est très proches. Voilà, ils ont mené aussi des actions sur les salaires et tout, il y a récemment. Voilà, on partage aussi avec le collectif de 77, en tout cas, toutes nos actions, etc., de façon à ce qu'on puisse construire aussi l'Interpro. Ouais.
Ok, merci beaucoup.
Produit de la crise, mon nom est effacé de la frise, non conforme aux normes de cette terre promise. Quoi qu'il en soit ou quoi qu'ils en savent, nos récits récidives, car maladive et la haine qui active nos salives. Fils de prolo, enfants prolixes, avec des envies de meurtre et des envies de luxe dans le lexique de nos lyrics. Qu'est-ce qu'on nous offre? Les affres d'une réalité affreuse, un faciès en crise, une conscience creuse, une vie indécente, indécise, entre vertu et convoitise, dans un bled qui nous méprise, vise, la répression est de mise, la bavure est admise, et c'est nos têtes soumises que les soufis prennent toujours préconise, au programme de leur propagande, nos âmes à vendre, le profit, le progrès qu'ils scandent, même s'ils s'en défendent, des projets perfides, pour des frères à l'estomac vide, ont rendu les fils du sacrifice rusé et solide, à présent, les purs produits de la crise ont la phrase acide, chapitre 1, épisode 1, spécial homicide. Pur produit de la crise, mon nom est effacé de la frise, non conforme aux normes de cette terre promise. Pur produit de la crise, mon nom est effacé de la frise, non conforme aux normes de cette terre promise. Pur produit de la crise, mon nom est effacé de la frise, non conforme aux normes de cette terre promise. Pur produit de la crise, mon nom est effacé de la frise, non conforme aux normes de cette terre promise. Pur produit de la crise.
Et donc, pour cette dernière partie d'émission, nous vous diffusons un entretien qui a été réalisé avec Luc-André Ponce autour de l'affaire de Moussa Gakou, gazier, qui, suite à sa participation au mouvement de grève qui se déroulait du 15 au 22 juin dernier, a subi la répression judiciaire et se trouve maintenant soumis à un processus disciplinaire au sein même de son entreprise. Cet entretien fut l'occasion de revenir sur un ensemble d'éléments autour de ce qui avait pu déclencher cette grève lors du mois de juin dernier, mais aussi autour des différentes questions qui se posent sur l'action syndicale et ses possibilités actuelles, et les attaques qui sont faites à toutes les formes de mobilisation. En ces temps où l'on ne cesse de nous parler d'énergie et de crise, il nous a semblé à nous judicieux de vous parler des gens qui produisent cette énergie et qui sont en lutte. On vous laisse écouter ça.
Luc-André Ponce, salarié de AEDF-GDF depuis 40 ans et qui assiste Moussa dans toute la procédure disciplinaire sur mon compte. Donc au mois de juin, Moussa a été identifié visiblement comme l'auteur d'une coupure de gaz.
Il n'était pas tout seul, il avait un groupe.
En tout cas, il y a une décision de l'Assemblée Générale d'intervenir sur l'outil de travail, donc y compris des coupures. Et donc Moussa de son, a été identifié pour avoir coupé trois postes, donc coupé trois quartiers en gaz. Donc RDF a déposé une plainte. Moussa a été interpellé à son domicile, dans des façons un peu cavalières, comme un voyou.
À 6h du matin.
6h du matin, menotté et tout, etc. Voilà, donc c'est un peu excessif, mais bon. Au bout de tout le processus d'interrogatoire, d'enquête et tout, Moussa, dès le début, a reconnu les faits. Voilà, il assumait que ça a été une démarche qui avait été décidée collectivement dans le cadre d'un mouvement social, et que lui, il l'avait fait dans ce cadre-là pour interpeller la direction sur leur cahier revendicatif. Portant sur les salaires, les conditions de travail, de reconnaissance. Etc.
Tu peux préciser un peu sur les revendications?
Alors les revendications, c'est que ben, notamment, ça fait des années que nous avons des baisses de pouvoir d'achat parce que les entreprises nous rabotent. Les propositions salariales qu'ils font, annuelles, sont toujours en deçà de l'inflation. Donc il y a une perte, année après année, du pouvoir d'achat et tout.
Et pour rappel, actuellement 5% et voilà. Vers la fin de l'année, potentiellement 10%.
Voilà. Et avec cette particularité que dans le même temps, l'entreprise est très prospère et gagne beaucoup d'argent. Et donc voilà, les gars comme Moussa, l'entreprise repose sur eux. C'est eux qui assurent la sécurité des usagers, c'est eux qui viennent les dépanner quand il y a des odeurs de gaz. Ils sauvent des vies, ou en tout cas, ils risquent la sienne pour les autres. Donc Moussa, quand il est passé devant le procureur, ils ont vu que c'était un homme du service public, un gars bien, il assumait son geste. Le procureur lui a dit que, bon, visiblement, c'était pas un truc. Il a proposé cette nouvelle formule que personne ne connaît vraiment, le plaider coupable. Donc, comparution immédiate et tout, mais donc, on dit tous le plaider coupable. Donc, Moussa, on lui a évoqué la possibilité de plaider coupable. Il était assisté d'un avocat et ils se sont pas opposés puisque la procédure a été à son terme. Donc, le procureur a proposé une sanction. Et une fois que le procureur a proposé une sanction, c'est pas un magistrat du siège, le procureur. Donc ça passe devant le président du tribunal pour homologation. Et la proposition de sanction du procureur a été validée par le président du tribunal.
Qu'est-ce qu'il a eu comme sanction ? C'était quoi les propositions ?
Alors comme sanction, il a eu 90 heures de travaux d'intérêt général. Et il a eu une décision qui me semble un peu exagérée, mais c'est la décision du tribunal. C'est 6 mois sans pouvoir exercer le métier de gazier. Donc nous, ce qu'on a dit au directeur quand on l'a reçu en matière disciplinaire, on a dit, on lit, nous, dans la décision du tribunal, s'il a choisi des peines de substitution, le mot substitution a tout son sens, ça veut dire que c'est plus une mise à l'épreuve qu'une sanction. Donc nous, c'est passé, la décision de justice, elle est là. Donc nous, ce qu'on a dit à la direction de GRDF, on n'accepterait pas un zèle excessif de vouloir rajouter une sanction comme le licenciement ou la rétrogradation d'autres sanctions financières sur le salaire ou le licenciement, en plus de la sanction du tribunal. Et en plus, comme ils l'ont mis à pied de façon conservatoire pendant 1 mois. Donc il a été suspendu pendant 1 mois, il n'a pas touché de salaire. Donc il a eu 1 mois de privation de salaire, il a 90 heures, donc 3 semaines en gros cumulées de travaux d'intérêt général. GRDF veut des dommages et intérêts, alors on n'en connaît pas l'exactitude et la légitimité de la revendication de ce qu'il demande. Moi je sais on a eu une affaire récemment à Enedis, ils réclamaient 36 000 euros, à la fin ils se sont calmés, c'était plutôt 6 000. Donc ça c'est une autre question, mais sur la question disciplinaire, nous, on est contre le système libéral qui voudrait dire il y a la justice, entre guillemets, civile, et le monde des entreprises est à part. Nous, on s'en tient à cette promesse des droits de l'homme que tu ne peux pas être sanctionné 2 fois pour les mêmes faits. C'est le principe de la double peine. Donc, on lui a dit, attention, au taulier, on n'acceptera pas ça.
Pourquoi c'est une attaque aussi dure contre Moussa ? Qu'est-ce qu'il a fait, Moussa ?
Moussa, il a osé défier GRDF sur une gêne maximum. C'est-à-dire que quand on fait grève et qu'on perd du salaire, ils s'en foutent. Si jamais ils coupent le gaz, il sait qu'il va interpeller. Il sait qu'il va provoquer. Il sait qu'il va être entendu. Alors qu'il ne l'était pas. C'est le problème qu'on a souvent dans ce pays, c'est qu'on est considéré jusqu'à temps qu'on l'oblige à nous considérer. Quand des gens, des citoyens ont dit « la taxe carbone, c'est trop cher », c'est comme ça pour autrement fermer vos gueules. Quand ça s'est appelé les Gilets jaunes, après, on a approché, après le mouvement des Gilets jaunes, la taxe différemment. Ceux qui posent la question pourquoi il a fallu attendre de foutre le feu à l'Arc de Triomphe pour enfin discuter. On ne pouvait pas discuter avant. C'est comme ça que ça se passe dans le monde de l'entreprise. Tant que tout est le rapport de force est exacerbé. Donc nous, on nous attaque sur nos feuilles de paye, sur la discrimination, sur des choses comme ça. Tant qu'on ne se rebelle pas, le dialogue n'est pas possible. Il n'y a pas de dialogue dans les entreprises sauf celui de la force. La force que nous, on reçoit et la force que nous, on donne. Sur tous les métiers du service public, c'est ingrat. Tu ne penses jamais au mec qui ramasse les ordures. Tu ne penses jamais, quand tu arrives chez toi, tu allumes ton PC, hop, ça s'allume, tu regardes ta télé. Tu ne penses jamais qu'il y a des cons qui ont risqué leur vie, qui ont bossé pour que t'aies l'électricité qui arrive chez toi. Alors sur Moussa, les choses sont simples. C'est que nous, on dit, quand ces choses-là se passent, c'est qu'on est arrivé en échec du dialogue social. Voilà.
Mais Moussa, il est actif dans le syndicat
Bien sûr. C'est un gars sur qui tu peux compter. C'est un gars qui a des convictions et c'est un gars qui fait. C'est-à-dire, c'est.
Il fait la même chose que nous, alors qu'on a un mandat, sans que lui, il ait un mandat.
Voilà. C'est quelque chose qui fait les choses parce qu'il est convaincu.
Parce qu'il est convaincu, et pour aider les copains, pour les aider à monter en compétences, il se met à la place des jeunes arrivants, il les forme, il les accompagne, il les aide.
Il fait un peu le grand frère.
Et il travaille pour le collectif.
D'accord. On lui tape dessus, parce que Moussa est quelqu'un qui est crédible au boulot.
Ouais.
C'est un professionnel reconnu. C'est quelqu'un qui porte des valeurs. Donc, si tu veux, il fait valeur d'exemple chez les jeunes, par exemple. Donc, c'est casser un peu la statue d'un mec droit. Donc, GRDF Île-de-France a une sanction, une décision à prendre. Lui nous dit, c'est GRDF national qui décide. Moi, je dis que si c'est GRDF national qui décide, c'est-à-dire pour lui, c'est soit une affaire importante, soit une affaire politique.
Déjà, est-ce que ça se fait que dans une procédure disciplinaire, le national s'en mêle ?
Ça arrive souvent, oui. Parce que on a des missions de service public, donc ça peut prendre très rapidement des proportions politiques. Là, on voit, de toute manière, il y a un député qui est rentré dans le bureau du directeur. On dit, attention, je suis député, je n'accepterai pas n'importe quoi.
Quel est le dossier disciplinaire de Moussa ?
Il est reconnu comme un bon professionnel qui n'a eu aucun accroc depuis 16 ans. Sauf qu'il est un peu moins classé. Voilà, il y a peut-être une petite... peut-être une petite discrimination qui traînerait. On réglera ça.
Tu peux nous expliquer un peu ?
Eh bien, si tu veux, dans le métier à Moussa, il y a 5, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 5 niveaux. Et 5 niveaux dans lesquels on est classé suivant son professionnalisme. Moussa, il est au milieu. Donc, il est considéré comme un professionnel moyen au bout de 16 ans. Pourquoi il n'est pas reconnu au plus haut niveau ? Parce qu'il n'y a aucune mission confiée à un agent de GRDF qui ne lui est pas confiée. Des 5 niveaux, il fait tous les boulots. Sauf qu'on le reconnaît qu'au 3e, au bout de 16 ans. Ça voudra dire que pour le métier de technicien gaz, il va faire toute sa carrière, peut-être 40 ans de carrière, sans avoir atteint le niveau maximum du professionnel dans son emploi. C'est une injure. C'est une injure. L'injustice n'est pas étrangère à la colère. C'est difficile quand tu risques ta vie comme Moussa, que tu rends service, que tu abandonnes ta vie sociale et tout, etc. Et que quand tu parles, on ne t'écoute pas.
Sur le fait qu'il n'est pas au niveau 1 ou 2, ça date depuis avant ou après qu'il s'est syndiqué à la CGT ?
Je l'ai dit encore au directeur, peut-être que nous avons la passion des cancres, mais il se trouve qu'à chaque fois qu'on a des militants CGT, c'est toujours les plus mal payés de la boîte. Et bon, nous, on ne croit pas à la foudre qui tombe deux fois au même endroit. Donc à la fin, on finit par ça. On ne se dit pas que nous, la CGT, ramassons tous les malheureux de la Terre. On se dit que peut-être on rend malheureux les CGT. Moi-même, à la veille du tribunal, ils ont dressé ma situation. Hein, parce que c'était devenu outrancier. Hein. Donc oui, la répression et la discrimination syndicale, ça existe. Donc Moussa fait partie des gens qui se battent. Voilà, mais il se bat, il n'a mis personne en danger, personne n'est mort, et tout ça, il ne faut pas exagérer. Moussa, c'est quelqu'un qui a tourné, après 16 ans de boîte, un fixe de 1600, 1700 euros. Alors c'est un technicien chevronné. Hein. Et il ne passe, il peut éventuellement doubler sa paye ou un peu moins, quand il met sa vie sur la table pendant l'astreinte. Quand il met en retrait sa vie sociale et quand il met en retrait sa propre sécurité, sa propre santé. Parce qu'il faut savoir que les gens qui montent l'astreinte, c'est moins de 12 ans sur la vie. Hein. À la fin, tu meurs 12 ans plus vite. Hein. Parce que si tu veux, quand toi, tu es en train de dormir, on te réveille brusquement avec quelque chose de stressant, ton cœur, il n'accepte pas. Donc toutes les études montrent que quand tu montes l'astreinte, tu perds entre 5 et 12 ans de ta vie, avant même d'avoir commencé. Quelqu'un... Ici, il y a du gaz. Quelqu'un qui va intervenir sur le gaz qui est payé 1400 balles par mois, il est logé. Sinon, il ne peut pas habiter ici à 1400 balles. Donc, quand il aura dépanné pendant 20 ans ou 30 ans, il va à la retraite. Mais il va toucher 1400 balles à la retraite. Il ne pourra plus se loger ici. Donc, après avoir dépanné tous les gens de son quartier pendant 30 ans, bah maintenant, j'ai plus les moyens de rester avec vous parce que je ne peux plus vous dépanner. Donc, au revoir. Ah ouais, tu as raison, fous-nous le camp, on va en prendre un autre. Il y a un côté Kleenex là-dedans. Et ça, c'est ce que les gens vivent. Mais les copains, quand t'es un homme, un père de famille, que t'es un adulte responsable, quand on te traite comme une merde, tu commences à mal le prendre. Et donc, eh ben, la situation va empirer. Donc ce pays-là, tout ce pays, ils sont tous affolés d'une explosion sociale qu'ils nourrissent eux-mêmes.
Et les dernières NAO, ça a donné quoi ?
Eh bien, ça a donné que dalle. Ça a donné modération salariale. Notre masse salariale, elle n'évolue pas. Mais ce que je te disais, notre masse salariale, elle stagne à GRDF ou à Enedis. Donc, en gros, quelles que soient les époques, on coûte à peu près le même prix. Ils jouent sur les effectifs, ils jouent sur la reconnaissance des qualifications, mais on est toujours sur le même truc. Par contre, quand ils demandent aux usagers de payer, c'est en hausse. Donc, nous, quand ils réclament le financement de nos salaires aux usagers de payer, et la demande est toujours plus haute que ce qu'ils nous donnent réellement. Donc, ils détournent l'argent des usagers. Ils demandent de l'argent pour payer le personnel, et ils le filent aux actionnaires. Est-ce sérieux? Ça faisait 5 ans que EDF ne reversait plus d'argent à l'État. L'État se faisait payer en actions d'EDF. Donc c'est les 12% d'actionnaires privés qui restaient qui touchaient eux des ronds. Ils préféraient toucher des ronds que des actions. Donc nous, on bossait pour engraisser des mecs qui foutent rien. Donc au bout d'un moment, ça délimite. Parce que, contrairement à ce que beaucoup croient, et c'est ce qu'on dit aux politiques quand on les voit, « Hey mec !» Un réseau électrique, c'est pas des fils et des poteaux. Un réseau gaz, c'est pas des tuyaux. Ça devient un réseau quand il y a un gazier et un électricien. Et sans les gars qui interviennent sur le réseau, il n'y a pas d'énergie dans ce pays. C'est clair. Moi, quand je dis à un ministre, c'est quand t'as fait ton dernier dépannage gaz? Il me dit, j'en ai jamais fait. Eh ben, ça tombe bien, moi aussi. Donc, tu n'as rien à voir quand tu parles du gaz, tu n'as rien à voir dans l'affaire. Ceux qui font le gaz, ce sont les gaziers. Des gens, lui, il y a été, lui. T'ouvres un trou, t'as un tuyau de merde avec de la boue dedans, lui saute dedans et il va réparer. Anne Hidalgo, il y va jamais. Hein. Darmanin, il y va jamais. Macron, il y va jamais. Et Luco, il y va jamais. Donc quand on parle du gaz, pourquoi on parle jamais de lui? Et en plus, on lui dit, ben écoute, t'es pas content, tu fais grève, dégage. Eh, dégage, tu vas voir si je dégage. Je vais te couper le gaz, tu vas voir ce que c'est quand je bosse pas. Donc si tu veux, c'est par le mépris et l'absence de considération pour les gens quand ils s'expriment qui font que, bah, et tiens, tu l'as vu dernièrement avec la crise Covid. Ça faisait 10 ans qu'on disait l'hôpital public, ça coûte un bras, ils foutent rien, c'est les 35 heures qui foutent la merde. Quand tous les malades du Covid arrivaient un par un, est-ce qu'il y en a un seul qui a osé parler des soignants comme des grosses feignasses et tout, etc. On les applaudissait. Mais pendant 3 ans où ils faisaient grève pour dire que l'hôpital, il était à bout de bras. Donc c'est l'ingratitude du service public. C'est que quand tu arrives aux urgences, qu'on te soigne et tout, c'est normal. Quand tu rentres chez toi, que tu prends une bonne douche parce que le gaz, il a marché, le chauffe-eau, il marchait, tout va bien. Quand il fait bien chaud, tu rentres sous ta couette, tout va bien. Et tu t'aperçois qu'il y a des gens qui existent que quand tu n'as plus de courant. Donc c'est surtout à dire à ces gens-là, le service public, c'est sérieux. Moussa, c'est un mec droit. Et donc, c'est le respect du travail, la valeur de travail. Toi, même à un moment donné, l'autre de l'ordre, il me dit, mais vous critiquez les salaires à GRDF. Mais moi, je vois pas beaucoup de démissions. Je vois des démissions de managers, mais je vois pas de démissions d'ouvriers. Donc, ça ne doit pas être si dur que ça. Alors, pourquoi ils restent? Ah ben, peut-être que pour vous, il y a des valeurs qui veulent rien dire, monsieur le directeur. Mais moi, je connais des gaziers. Les questions de servir, de service public, d'engagement, de don de soi, d'aller vers l'autre. Peut-être que vous allez me prendre pour un peu fleur bleue, mais ça existe. Est-ce qu'il y a beaucoup de démissions chez les pompiers? Non, vous êtes sérieux avec des questions pareilles, vous, les tauliers? Donc c'est comme ça que s'est passé l'entretien. Je réponds pas à ce genre de conneries.
Et juste un mot sur EDF. Quand ils disent que EDF était quasiment ruiné...
Non, EDF n'était pas ruiné. EDF, on l'a ruiné. Quand tu obliges une entreprise comme EDF à vendre un quart de son chiffre d'affaires à bas prix. C'est-à-dire, c'est comme si tu demandais à Peugeot de vendre un quart de ses voitures à 60% de leur valeur. Peugeot, il crève. Donc, EDF a été saigné à blanc. Du reste, même là, je vais te donner une anecdote sur EDF, si tu veux savoir comment. EDF doit livrer 130 mégawatts à ses concurrents. Le problème, c'est que tous ces réacteurs en rade, il ne les a pas, ces mégawatts. Il n'a pas ces mégawatts à vendre à 50 euros. Il ne les a pas. Parce qu'il doit vendre un quart de sa production nucléaire, mais sa production nucléaire, la moitié est stoppée par des réacteurs en maintenance. Donc la petite supercherie du gouvernement Macron, c'est de demander à EDF... d'acheter des kilowatts sur le marché, des mégawatts sur le marché, à 300 ou 400 euros, pour honorer son contrat de les vendre à ses concurrents à 50 euros. Donc EDF achète du courant à 300 ou 400 euros pour le revendre 50 à ses concurrents. Il n'y a aucune boîte qui peut soutenir ça. Mais si jamais il ne faisait pas ça, tous les fournisseurs alternatifs s'écrouleraient et le marché et la concurrence sur l'énergie s'écrouleraient.
Et on reviendrait à un monopole.
Voilà. Et donc, comme idéologiquement, ce serait reconnaître ces erreurs d'un marché européen qui commence à critiquer, je ne sais pas si c'est un marché qui commence à critiquer, parce que tout ça n'est pas tenable. Tout ça n'est pas tenable. Donc, le marché de l'énergie est une blague. Alors là, si tu veux, pourquoi... tu vois, par exemple, moi, j'ai été interviewé par un journaliste, et il me dit, mais comment ça se fait que le prix de l'électricité, il augmente à cause du gaz? On était le 1er octobre de l'année dernière. Je lui dis, je te donne les chiffres du 30 septembre. Je ne peux pas te faire mieux. Donc, on te dit, l'idée, c'est qu'on produit de l'électricité avec du gaz. Eh bien, dans notre pays, hier, électricité produite à partir du gaz, 2%.
Oui,
comment,
France, mais...
comment se fait-il que l'électricité produite avec du gaz impacterait autant le prix de l'électricité alors qu'elle représente 2% de la consommation? Alors, il me dit, mais alors toi, tu l'expliques comment? Et je l'explique comment? Par la mise d'un marché européen sur lequel les Allemands, pour citer qu'eux, les Allemands n'ont pas fait les investissements nécessaires. Donc, eux, ils produisent au gaz.
Entre autres, d'après ce que j'ai compris, ils ont mis en place une règle d'indexation, c'est-à-dire qu'à tout moment, en fait, il y a différents moyens sur toute l'Europe de production de l'électricité. Bon, il y a le nucléaire, le gaz, le charbon, l'hydraulique, les énergies renouvelables, les éoliennes, et j'en passe. Et qu'en fait, ils indexent, a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pour ça que le prix du mégawatt-heure est monté à 1000 euros, là. D'après ce que m'a expliqué JD, ils ont mis en place une règle qui fait que le prix de l'électricité est mécaniquement indexé sur le prix de son moyen de production le plus coûteux. Et comme ce prix est devenu le gaz à cause de la crise du gaz liée aux sanctions contre la Russie, parce que les sanctions, parlons-en des sanctions, ils touchent pas l'économie russe, la Russie, la Fédération de Russie actuellement croule sous le cash. Faut le savoir, ça. Croule sous le cash. Oui, donc les sanctions économiques contre la Fédération de Russie touchent l'Europe. Alors, c'est plus qu'un boomerang.
Alors tu peux l'expliquer plus simplement. On est quatre.
Ouais.
Voilà. Il y a 100% d'électricité à produire.
Ouais.
Toi, t'es le nucléaire.
Ouais.
Tu vas en produire 75%.
D'accord.
À un prix de
50 euros. 50 euros.
50 euros. Boubou, lui, il va faire 10% d'éolienne.
Oui, c'est donc plus cher déjà, je crois.
Donc oui, Boubou, il va dire, moi, c'est 80 centimes, les gars. Bon, ben, Boubou, tu vas prendre 80 centimes. Toi, tu vas dire, mais moi...
Donc, je fais
du solaire. Donc, tu vas faire 10% de solaire. Boum. Ça va coûter, allez, 80 centimes comme Boubou.
Moi, je vais arriver... 80 euros de mégawatt heure.
Voilà, 80 euros de mégawatt. Et moi, j'arrive, je dis, ah, écoutez, les gars, il vous manque 2%. Il vous manque 2%. Mais moi, je veux bien vous les donner en gaz. Ah ouais, mais par contre, ça va être 400. Alors, donc, tout le monde dit, ouais, je fais 400. Et toi, tu vas me dire, eh, dis donc, machin, tu me prends pour qui? Donc, moi, je livre 75% à 50 centimes. Et toi, tu livres 2% à 400. Et tu crois que je vais accepter 50? Bon, ben moi, je te sucre les 50 qui restent. Hein. Les 75, je ne les fais plus à ce prix-là. Donc, tu es obligé, quand toi, tu fais tout gros du travail, 75% de la production à 50 centimes, quand tu vois un gougnafier qui arrive à la dernière minute, qui prend 400 euros, eh, je veux le même prix que lui.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Radio Primitive.
La radio qui fait grrrr.